Enquête sur les traces de Jules César. Qui était-il vraiment? Une série de podcasts proposés par les élèves de 3e latiniste du collège Jules Verne de Vittel.
Salouette, nous sommes
Émilie
et Arthur. Nous allons vous parler de Caius Iulius Caesar.
Tu veux dire de Jules César, bien sûr.
Tout à fait, car Jules n'est pas son prénom, mais son nom de famille. Il appartient à la gens Iulia, c'est la grande famille des Jules.
Quant à César, c'est un cognomen, c'est-à-dire un surnom rajouté à sa naissance. Il signifie « éléphant ». En effet, selon la légende, un des ancêtres de César en aurait terrassé un.
Les Iulia constituent l'une des plus prestigieuses et des plus anciennes familles romaines, une famille de patriciens. Selon une autre légende que César aimait rappeler, les Iulia descendraient de Vénus, la déesse de l'amour, et César serait un descendant direct du héros aîné.
Sa famille n'était pas pour autant riche, elle s'est appauvrie au fil du temps, et quand le père de César est mort, ils deviennent encore plus pauvres.
Jules César a vécu dans un village pauvre de Rome, nommé Subur. On ne sait pas grand-chose sur son enfance, mais on sait qu'il était éduqué et brillant. Il maîtrise parfaitement le latin, mais aussi le grec, les mathématiques, aussi bien que la gymnastique ou encore la natation et l'escrime.
Il étudiait la rhétorique et l'éloquence, c'est-à-dire l'art d'exprimer clairement ses idées et de bien parler. Par la suite, il écrira même des livres.
Fuisse traditur, excelsa, statura, colore candido, terretibus membris, ore paolo plenore, nigris vegetisque, oculis, valitudine prospera.
La traduction en français donne « Il avait, rapporte-t-on, la taille élevée, le teint blanc, les membres bien faits, le visage un peu trop plein, les yeux noirs et vifs et la santé robuste. »
Extrait du livre « La vie des douze Césars » de l'auteur latin du Haut Empire, Suétone.
Pendant la jeunesse de César, la République romaine est secouée par plusieurs guerres civiles. La noblesse romaine est divisée en deux grands partis. Celui des optimates, les meilleurs, et des populares, ceux qui sont proches du peuple. Les populares veulent améliorer les conditions de vie des gens du peuple, qu'on appelle les plébéiens, tandis que les optimates refusent de partager et veulent que les patriciens conservent leurs privilèges.
César est du côté des populares. Son oncle, par alliance, le général Marius, est le chef de ce parti. À 16 ans, César épouse Cornelia, dont le père, Cinna, est aussi un grand représentant des populares.
La guerre civile se termine par l'instauration du diktat de Sylla. Le général Sylla s'est imposé par la force. Il est du côté des optimates. C'est un grand ennemi des populares. C'est pourquoi il exige que César répudie sa femme Cornelia.
Répudier signifie que César doit quitter légalement son épouse. Mais César refuse et garde sa femme, Cornelia, avec lui. Il est contraint à l'exil et ne revient à Rome que lorsque Sylla, très vieux, s'est retiré du pouvoir. Pendant son exil, il va en Asie, où il apprend à combattre sur le terrain. Il est aussi pris en otage par des pirates.
À 27 ans, Jules César s'engage dans la politique en débutant son cursus honorum, la carrière des honneurs. Il commence donc comme tribun militaire, c'est-à-dire officier de l'armée, puis il devient questeur ou trésorier de la province d'Espagne du Sud. Et c'est ainsi qu'en -66 avant Jésus-Christ, il est nommé édile.
Quand il est nommé édile, Jules César s'attire la sympathie du peuple et la confiance en organisant de grands jeux et des cérémonies magnifiques. Il se rapproche alors de deux hommes politiques les plus influents de Rome, Pompée, un grand général, et Crassus, l'homme le plus riche de Rome.
Écoutez le podcast suivant pour découvrir comment l'alliance de ces trois hommes a permis à César de continuer de gravir les échelons du succès.
Où elle était ?
Salouette, nous sommes Émilie, Arthur et Cléo. Nous allons vous expliquer la suite du parcours de Jules César depuis qu'il s'est allié avec Pompée et Crassus.
Nous sommes en -59 et grâce au soutien de ces deux hommes puissants, César, qui n'avait pas beaucoup de moyens, vient d'être élu consul. En effet, César, Pompée et Crassus ont formé ce que l'on appelle le premier triumvirat. Ils se sont alliés pour diriger à eux seuls la République romaine.
César, veuve de Cornelia, se remarie avec Pompeia, une parente de Pompée. Cela renforce leur alliance. Pompée, quant à lui, épouse Julia, la fille de César et Cornelia.
En -58, César est nommé proconsul, c'est-à-dire qu'il part diriger des provinces, plus précisément les provinces gauloises, qui dépendaient déjà de Rome, dans l'idée de conquérir ce que les Romains appelaient la Gaule chevelue.
C'est ainsi qu'il se lance dans la célèbre conquête des Gaules, qui se finit en -52 lorsque Vercingétorix dépose les armes à Alésia.
En -50, la mort de Crassus, puis celle de Julia, remettent en question l'alliance contre César et Pompée, et deviennent peu à peu de terribles rivaux.
Les choses se compliquent vraiment lorsque César veut rentrer à Rome. En effet, pour éviter les dérives, la loi de Rome interdit à quiconque d'entrer en Italie avec une armée sans autorisation du Sénat. Or, le Sénat, qui soutient Pompée et s'inquiète de la popularité et du pouvoir que César est en train d'acquérir, demande à César de laisser son armée et de revenir en simple particulier, sans triomphe.
Le 11 janvier 49, avant Jésus-Christ, Jules César arrive avec ses soldats au bord du Rubicon, petit fleuve marquant la frontière de l'Italie. Légalement, il n'a donc pas le droit de traverser. Mais César refuse d'obéir au Sénat.
C'est là qu'il prononce ces mots célèbres. « Eatur in quid quo deorum ostenta et inimicorum vocat, iacta alea est. »
Ce qui veut dire « Allons où nous appellent les signes prodigieux envoyés par les dieux, ainsi que le comportement injuste de nos ennemis. Le dé a été jeté. »
Extrait du livre « La vie des douze Césars » de l'auteur latin du Haut Empire, Suétone.
César entre dans Rome sans problème, car Pompée, par peur des représailles, s'enfuit. Cela déclenche malgré tout toute une guerre civile.
Tout en s'efforçant de faire sa place à Rome, où les partisans de Pompée sont nombreux, César poursuit ses conquêtes. César et Pompée ne parviennent pas à faire la paix, leurs armées s'affrontent.
Pompée est vaincu à Pharsale, en Grèce, et part se réfugier en Égypte.
Enfin, c'est ce qu'il croit, car à Alexandrie, il est assassiné sous les ordres du jeune roi Ptolémée XIII, qui croit faire plaisir à César et veut s'allier avec lui. Cela déclenche au contraire la fureur de César. Il décide alors de soutenir la sœur de Ptolémée, Cléopâtre VII, qui veut le trône d'Égypte. Il remportera une grande victoire contre Ptolémée, qui va mourir au combat. Cléopâtre devient alors reine d'Égypte, mais aussi l'amante de César. Ensemble, ils auront Césarion.
En -47, César écrase Pharnace, le roi du Bosphore, ancien allié de Pompée, qui avait attaqué l'Asie. C'est là qu'il dit ces mots bien connus.
Weni widi wiki.
Qui veut dire « je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu ».
Les derniers soutiens militaires de Pompée se rassemblent en Afrique. César les rejoint et obtient contre eux une victoire décisive, qui marque la fin de la guerre.
Pour connaître le destin de César, lorsqu'il revient à Rome, écoutez le podcast de Jeanne et Titouan.
Où elle était.
Salouété, c'est Jeanne et Titouan. Ensemble, nous allons essayer de comprendre ce qui a mené à l'assassinat de Jules César.
C'était d'autant plus surprenant qu'à son retour, César avait mené de grandes actions pour embellir Rome et améliorer la vie des Romains. Il était donc très populaire.
Oui, il offrait au peuple de grands spectacles. Il a même fait creuser un bassin pour des spectacles de bataille navale et a créé un nouveau forum. Il aidait les plus pauvres, donnait des terres à ses anciens soldats. Il a même développé la culture en créant une grande bibliothèque et en valorisant les professeurs.
D'ailleurs, saviez-vous qu'il est à l'origine de notre calendrier actuel ? Sous César, le calendrier romain devient le calendrier julien et César donne son nom, Iulius, à son mois de naissance que nous appelons aujourd'hui le mois de juillet.
Les sénateurs eux-mêmes avaient accordé à César le titre exceptionnel de dictateur pour 10 ans avant de le nommer dictateur à vie en février -44.
Mais au fait, que veut dire être dictateur à cette époque ?
Dans la Rome antique, un dictateur est un magistrat nommé dans une situation d'urgence. Normalement, c'est 2 ans maximum.
En fait, même si le Sénat a accordé ce titre à César, certains sénateurs ont peur que César ne détruise la République pour devenir roi de Rome, voire pour se comporter en tyran, comme l'a fait Sylla. C'est la rumeur qui circule, mais personne ne sait si telles étaient vraiment les intentions de César. Les spécialistes du sujet sont partagés sur la question.
Ils sont peut-être aussi jaloux du pouvoir de César.
On les appelle les conjurés, et aux ides de mars -44, c'est-à-dire le 15 mars, ils vont poignarder César en pleine réunion du Sénat à la Curie.
C'est un lieu dans lequel, normalement, personne n'entre armé. César n'avait donc pas de quoi se défendre et ne se méfiait sans doute pas, malgré les nombreux cauchemars que fit sa femme les nuits précédentes. C'est ce qu'on appelle les augures, des présages annonciateurs ici de malheur.
César est plus précisément frappé de 23 coups de poignard. On dit que c'est son fils adoptif, Brutus, qui aurait porté le dernier coup et qu'à ce moment, dans un dernier souffle, César aurait prononcé la célèbre phrase « Tu quoque mi fili, toi aussi mon fils ».
D'ailleurs, en fait, il l'aurait plutôt dit en grec car c'était la langue de sa nourrice.
Dès le 17 mars, à la demande du peuple, très en colère, le Sénat décrète l'apothéose de César, c'est-à-dire qu'il est élevé au rang des dieux. Il est désormais Divus Iulius. Il sera enterré au temple de César qu'il avait lui-même fondé.
Dans son testament, à la surprise de tous, César adopte son petit-neveu, Octave, qui deviendra sous le nom d'Auguste, le premier empereur romain. Car contrairement à ce que l'on pourrait penser, César n'a jamais été empereur. Mais tout comme Auguste, a lui aussi obtenu un mois du calendrier. Cela mériterait donc une autre série de podcasts.
Merci d'avoir écouté nos trois podcasts. Nous espérons vous avoir appris des choses.
Ou à l'été.